France Inter, il est 7h30. Soyez les bienvenus, c'est le journal de Sébastien Legeny. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, 25 milliards d'euros sur 10 ans pour la recherche. Un investissement inédit pour le gouvernement, une réforme en trompe-l'œil pour les chercheurs. Ce projet de loi très controversé arrive dans l'hémicycle cet après-midi. La France manque d'aide à domicile, une pénurie chronique encore aggravée ces derniers mois par l'épidémie de coronavirus. Témoignage à suivre. À suivre aussi le Sénat américain au cœur d'une bataille qui s'annonce homérique. Il s'agit de remplacer la célèbre juge à la Cour suprême morte la semaine dernière. La folie du vélo à Paris qui tourne à l'anarchie. Et pour finir, une application qui supprime les commentaires haineux sur votre téléphone.
Au micro de Léa Salamé à 7h50. Aujourd'hui, le secrétaire national du Parti communiste français, le PCF, député du Nord, Fabien Roussel.
France Inter.
Remettre la France, Sébastien, sur les rails de la compétition scientifique internationale.
C'est l'ambition du gouvernement, car en 25 ans, la France est en effet passée de la 4e à la 12e place en matière de budget alloué à la recherche. Le projet de loi qui arrive donc aujourd'hui devant l'Assemblée est très attendu. Il est censé mettre fin à des années de sous-financement et de réduction de postes. Première nouveauté, le texte engage l'État sur 10 ans. 25 milliards d'euros sont prévus sur cette période, ainsi que la création de 5200 postes. Au cœur du projet, la revalorisation de la carrière des jeunes chercheurs, sauf que pour la communauté scientifique, eh bien ce texte ne va pas assez loin et il ne permettra pas de rattraper le retard accumulé, Sophie Bécherel.
La France est un grand pays scientifique, mais la France décroche. Baisse des crédits publics, réduction du nombre de postes, diminution du nombre de publications à l'international. Ce constat unanimement souligné par de nombreux rapports est partagé au plus haut niveau de l'État. L'un des objectifs de la loi, c'est de redonner de l'attractivité aux carrières scientifiques. Ça commence par la thèse. D'ici 2027, il est prévu d'en financer 20% de plus. Tatiana de Ferrodi est membre de la Confédération des jeunes chercheurs.
Prévoir 5 à 6 000 contrats supplémentaires sur 10 ans, c'est absolument insuffisant. Suffisant par rapport aux 15 000 contrats doctoraux que nous estimons nécessaires pour que chaque doctorant et chaque doctorante soit financé par sa recherche. Vous avez aujourd'hui moins de 3 doctorants sur 4 qui bénéficient d'un financement et pour les sciences humaines et sociales, on est à moins d'un tiers des doctorants et doctorantes qui sont financés.
La faible rémunération joue aussi dans la baisse d'attractivité. Dès l'an prochain, prévoit la loi, les jeunes chercheurs et maîtres de conférences toucheront 2 fois le SMIC contre 1,4 aujourd'hui. Mais cela concerne des personnes qui ont passé 30 ans. S'il approuve cette revalorisation, Erwan Bézard, le directeur de l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, estime qu'elle est trop faible.
Je prends un seul exemple. Un directeur de recherche du CNRS ou de l'INSERM dans les années 80, c'était 5 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois le SMIC simplement.
Être attractif, c'est proposer des emplois. Sur les 10 prochaines années, la recherche publique augmentera de 5200 le nombre de places au concours.
Voilà des chiffres qui sont encore loin de convaincre. Manifestation cet après-midi devant le Palais Bourbon à l'appel de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur. C'était attendu, les règles sanitaires seront assouplies dans les écoles à partir de demain. Il faudra qu'il y ait 3 cas positifs dans une même classe pour qu'elle ferme. 89 établissements scolaires sont actuellement fermés, 0,15% des établissements. Assouplissement aussi pour les motards parisiens, ils ne seront plus obligés de porter un masque sous leur casque. Voilà. À condition toutefois de circuler avec la visière baissée.
La crise sanitaire, Sébastien, qui pèse lourdement sur le recrutement des aides à domicile.
Une demande d'accompagnement à domicile sur 5 n'a pas pu être prise en charge l'an dernier. Ce n'est pas nouveau, la France manque de bras pour ce métier et c'est devenu bien pire encore avec le Covid qui fait peur à celles et ceux qui seraient tentés par cette profession difficile et peu valorisée. Yann Gallic.
Mot de travail comme aide à domicile depuis 14 ans, essentiellement chez des personnes âgées, environ 30 heures par semaine payées au SMIC. Même si Maud aime son métier, ça devient, dit-elle, de plus en plus difficile.
On a des journées de 10 heures de travail, ça peut être. C'est un métier qui est dur, qui a plein de contraintes, qui est peu payé.
Et vous n'avez pas eu de prime particulière liée au Covid, puisque vous faites partie des professions qui avaient continué à travailler, à sortir pendant le confinement?
Ben non, nous sommes toujours la dernière roue du carrosse, donc je suis rendue à un stade où je suis usée. J'ai l'impression que c'est un métier qui se meurt.
Dans le Finistère, l'ADMR, l'association d'aide à domicile en milieu rural, a du mal à recruter de nouveaux salariés pour répondre à la demande, explique Marie Kermarek. C'est l'une des responsables locales de l'association.
On a des offres d'emploi, des postes en CDI, mais personne n'est intéressé. C'est vrai que c'est un métier qui manque vraiment de reconnaissance. Je pense que ça joue beaucoup. Après, il y a la phase Covid, je pense, qui est rentrée aussi par là. Moi, j'ai eu des personnes au téléphone qui m'ont expliqué, ben non, vu la situation actuelle, je préfère ne pas travailler. Ça se bouscule. circule pas au portillon, loin de là. Sauf que là, on est obligé de refuser des prises en charge parce qu'on n'a pas le personnel en face.
Pour pallier notamment les départs à la retraite, Marie Kermarek aurait besoin de recruter au moins 6 aides à domicile en CDI. Autant de postes qui risquent de rester vacants pour l'instant, faute de candidats.
Yann Galik, l'actualité à l'étranger. Avis de gros temps à Washington. C'est une véritable tempête politique aux États-Unis qui a déclenché la mort vendredi dernier de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Une juge très progressiste que Donald Trump rêve de voir remplacer au plus vite par une autre femme. La plus haute instance judiciaire américaine qui doit trancher dans les affaires d'avortement, d'armes ou de droits civiques serait alors aux mains des ultra-conservateurs pour des années. L'enjeu pour Trump, c'est de procéder à cette nomination au plus vite. Tout va se jouer au Sénat, à majorité républicaine. C'est à lui que revient le droit de valider un nom ou pas. Tout va se jouer à quelques voix près. À Washington, Grégory Phillips.
Il y a 53 sénateurs républicains pour 47 démocrates. Une fois que Donald Trump aura révélé le nom de sa candidate pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, ce sera plutôt une femme, a précisé le président. Ce sont eux, les sénateurs, qui devront l'auditionner puis ensuite valider par un vote sa nomination à vie à la Cour suprême. La pression est énorme sur les épaules des sénateurs républicains, car comme pour leurs collègues démocrates, leurs sièges sont aussi remis en jeu le 3 novembre et le choix qu'ils vont faire aura des conséquences sur leur propre mandat, selon qu'ils auront facilité ou non le basculement complet de cette Cour suprême dans le camp conservateur. Pour l'instant, une seule sénatrice républicaine, Lisa Murkowski, élue en Alaska, a dit qu'elle s'opposerait à cette nomination car trop proche de l'élection. Sa collègue du Maine, Susan Collins, déclare aussi que le Sénat ne devrait pas faire cela, mais elle n'a pas tranché. Le patron de la majorité républicaine, Mitch McConnell, va donc toute cette semaine tout faire pour rassembler ses troupes, car si 4 sénateurs républicains font faux bond, alors le pari de Donald Trump sera perdu. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
On revient en France, dans le Gard, 2 personnes restent disparues après les violentes inondations de samedi. C'est l'heure maintenant de panser les plaies, reconstruire les routes et les ponts endommagés, aider les habitants et les commerçants sinistrés. Les élus et les collectivités sont déjà au travail, comme Martin Delors, vice-président en charge des infrastructures et des financements pour le département du Gard. Il évalue les dégâts hier dans le village de Val-des-Goiles.
Malheureusement, dans le département du Gard, on est habitué. Hein. On sait monter les tables rondes entre l'État, la préfecture, le département, la région. On va se mettre autour de la table pour trouver des financements et essayer de faire en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même des gens pour l'instant qui sont bloqués sur la route qui descend vers Saint-André-de-Bagincoul et Pont-d'Hérault. Il y a des ponts qui mènent à des petits hameaux où il y a 5, 6, 10 habitations qui sont détruits. Il faut intervenir assez vite. Il y aura bien sûr un état de catastrophe naturelle, mais quelquefois, vous savez ce que c'est. Vous avez des vieux engins, des vieux outils qui rendent service comme à neuf, mais quand l'assurance arrive, elle dit, la vétusté, ça n'a pas de valeur. Donc il va y avoir là aussi un peu d'accompagnement peut-être à faire. Comme tout le monde, catastrophé par l'ampleur des dégâts. Les dégâts qui sont à la fois sur le réseau public, sur les routes, sur les ponts, et même dans les commerces. Il n'y a quasiment plus de commerce à Val-des-Goiles, quoi, pour l'instant.
Martin Delorde avec Natacha Cadour de France Bleu, Gare-Lozère. Les 863 salariés de Bridgestone vont tenter de relever la tête le temps d'une réunion aujourd'hui à Béthune. Tous les acteurs du dossier doivent parler scénario alternatif. Ça commence cet après-midi avec la venue des ministres Agnès Pannier-Runacher et Elisabeth Borne.
Il est 7h38 quand les pistes cyclables parisiennes, Sébastien, se transforment en jungle.
À Paris, en effet, le nombre de blessés à vélo a augmenté de plus de 30% depuis janvier par rapport à la même époque de l'an dernier. À cela, une explication, les mauvais comportements. Les infractions des cyclistes ont été multipliées par 3 par rapport à l'an dernier. C'est un reportage signé de Yasmina Katou.
Sur une piste cyclable au pied de la Tour Eiffel, quand on demande à des cyclistes s'ils respectent le code de la route.
J'essaye de respecter les limitations, de faire attention. J'essaye de passer quand les feux sont indiqués.
Vous roulez tout le temps sur une piste cyclable ?
Sur une piste, oui, quand il y en a, oui, absolument.
Je suis assez paranoïaque même. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à droite, à gauche, devant, derrière, il faut faire attention partout.
Mais quand on creuse un peu plus, les langues se délient.
La seule chose que je me permets parfois, c'est de passer un feu rouge quand je tourne à droite pour être devant les voitures.
On est pressé, bon, on ne s'arrête pas au stop, donc on essaie de regarder bien et très vite et de partir.
Il est possible que je passe un rouge ou dans une rue à contre-sens.
sens.
Malgré leur comportement, ces cyclistes ne font pas partie des 580 qui se sont blessés à vélo depuis janvier. Un chiffre directement lié à l'augmentation de 60% du nombre de cyclistes, explique Jean-Sébastien Cattier de l'association Paris Ancel.
Avec l'explosion du nombre de cyclistes ces derniers mois, c'est un peu logique qu'on ait une augmentation un peu mécanique du nombre d'accidents. Mais ce qu'on constate, c'est comme le nombre d'accidents augmente moins vite que le nombre de gens sur les pistes, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et Jean-Sébastien Cattier de conclure, plus il y aura de pistes cyclables, moins il y aura d'accidents.
Le reportage de Yasmina Katou.
Et on termine, Sébastien, avec une application pour lutter contre le cyberharcèlement.
Ça s'appelle Bodyguard, c'est une application sur smartphone, application française, qui traque et supprime les commentaires haineux sur votre profil, sur les réseaux sociaux. Cette application a reçu le trophée Fort Démocratie de l'Association d'entrepreneurs et d'investisseurs France Digital, Sarah Calamand.
Pas d'argent à la clé, mais le fondateur de Bodyguard y voit une belle récompense. Charles Cohen a 24 ans et le Niçois s'est donné pour mission de rendre les réseaux sociaux plus bienveillants.
On n'est pas là pour faire de la surcensure, on est là vraiment pour protéger l'individu. Pour moi, maintenant, toute la création se fait sur Internet. La haine en ligne, le cyberharcèlement empêche certaines personnes de s'exposer publiquement sur les réseaux sociaux, de peur de se faire insulter. Dire ce qu'on souhaite dire, bien sûr, dans les limites de la légalité, c'est la base de la démocratie.
L'algorithme va scanner tous les commentaires d'une page YouTube, Instagram ou Twitter et va supprimer les insultes, les propos racistes, sexistes ou homophobes dirigés vers le propriétaire du compte. Ça en fait un système plus poussé que la modération classique des plateformes. Un argument de taille pour Frédéric Mazella, coprésident de France Digital, l'association qui a récompensé Bodyguard.
Ils ont une technologie qui détecte 90% du contenu haineux en ligne. Ils ont déjà 50 000 utilisateurs et ils arrivent à bloquer 5 millions de commentaires haineux en ligne chaque mois. C'est vrai que Bodyguard est une des sociétés les plus jeunes qu'on ait récompensé, mais on trouvait justement que l'approche était assez innovante et que ça méritait d'être mis en avant.
Pour l'instant gratuite et seulement française, Bodyguard va proposer des abonnements aux entreprises et compte bien sur ce prix pour se lancer aux États-Unis et en Italie dans les prochaines semaines.
Voilà, l'application Bodyguard pour se protéger de la haine en ligne, c'était un reportage de Sarah Calamand.
Merci Sébastien Legénie.